Chapitre 51. Sur le site envie-de-tuer.com. Aujourd'hui, réveillon du 24 décembre. Ce connard barbu s'est pointé sans iPhone 6, sans iPad, sans Nintendo 3DS. Mais avec un séjour linguistique à Francfort et un abonnement à Acadomia. Envie de tuer. Ma petite sœur n'a même pas eu le temps de croire au Père Noël. Il crame dans la cheminée avec sa hotte. Condamné, 853. Acquitté, 18. Peut-être qu'il n'a pas voulu goûter à son gâteau au carambar. Marianne Ogresse jeta un regard désolé sur l'agent Bourdaine. Elle se tenait dans l'entrée, contre le porte-manteau en merisier, observant une pièce après l'autre. La cuisine et le salon. Au fond, l'allusion déplacée de Bourdaine n'était pas stupide, si on se fiait aux apparences. Côté cuisine, on aurait juré qu'Amanda Moulin allait surgir d'une seconde à l'autre, un torchon à la main, une éponge dans l'autre, et crier d'une voix enjouée à toute sa petite famille « C'est prêt, on mange !» Table dressée, tomates mozzarella dans le frigo, pain frais, gâteau au four, trop cuit, la seule fausse note. Côté salon, tout avait dérapé. Dimitri Moulin gisait sur le tapis de bambou au motif japonais rappelant vaguement des nénuphars. Les nymphéas flottaient désormais dans une mare de sang, à moitié asséchée par les lattes de bois tressées. Une balle entre les deux yeux. Pas d'arme apparente. Pas de témoin. Amanda et Malou de Moulin avaient disparu. La voiture des Moulins était encore dans le garage, ils avaient vérifié. Tout portait donc à croire qu'Amanda Moulin avait abattu son mari, puis s'était enfuie avec son fils. Son fils supposé, du moins, à pied. Marianne Ogresse avança d'un pas jusqu'à la porte du petit placard sous l'escalier. Elle continuait de trouver invraisemblable le contraste entre les deux pièces, la scène de ménage et la scène de crime, comme séparées par une frontière infranchissable, deux univers qui ne pouvaient pas être connectés. Pas ainsi. Pas aussi brutalement. Il y avait autre chose. Marianne se força à ne pas s'enfermer dans des hypothèses qui ne menaient à rien pour l'instant. Après tout, il n'y avait qu'à laisser la police scientifique faire son travail. Il ne mettrait pas longtemps à trouver si quelqu'un d'autre était présent dans la pièce, même s'il n'y avait qu'un verre de whisky posé sur la table du salon. Même si, d'après son patron, Dimitri Moulin avait quitté son travail vers 11h30, et avait donc été tué moins de 30 minutes après être rentré chez lui pour déjeuner. Constantini et Duhamel quadrillaient le quartier à la recherche d'autres témoins. Deux autres voitures tournaient dans Manéglise et sur les départementales alentours. Si Amanda Moulin avait vraiment paniqué, avait filé seule avec son gamin sur les routes, elle ne pourrait pas aller bien loin. Sauf que Marianne ne croyait pas une seconde à cette version. Elle s'approcha de la fenêtre et vit la voiture du lieutenant Le Chevalier se garer en trombe devant le pavillon. Attendit que JB se penche à l'arrière pour en sortir une imposante caisse de plastique et ramasser plusieurs feuilles éparpillées dans le coffre. Sûrement l'ensemble des documents trouvés chez Vasil Dragonman. JB avait été rapide. JB était efficace. Même furieux de n'avoir pas vu sa femme et ses enfants depuis hier, furieux contre sa commandante en particulier, JB lui serait utile. Le plus utile de tous pour passer au crible chaque mois de la courte vie d'un gosse de 3 ans. La commandante se retourna vers le salon et fixa le cadavre de Dimitri Moulin, histoire de penser à autre chose, à l'orphelin qu'il laissait derrière lui, par exemple. Une balle entre les deux yeux. Le tir était net, précis. Un tir de professionnel. Pas celui d'une femme qui aurait tenu un revolver pour la première fois et qui l'aurait braqué sur son mari à la suite d'une dispute pour se défendre, pour se faire justice, qui aurait paniqué, qui aurait craqué, qui aurait pressé la détente. Elle ne croyait pas non plus à la préméditation. Même la plus consciencieuse, la plus soumise des mères de famille ne place pas une assiette, un verre, une fourchette et un couteau devant la chaise de l'homme qu'elle a projeté d'abattre dès qu'il posera ses fesses dans la maison. Le portable de la commandante vibra. Un bref texto. Angie. La belle s'inquiétait toujours à propos du cadavre retrouvé Cap de la Hève. Mais Marianne n'avait pas le temps de la rappeler, de lui confirmer que oui, c'est bien Vasil Dragonman qui avait été assassiné. Elles se saouleraient toutes les deux à sa mémoire un de ces prochains soirs, mais pour l'instant, Sa jolie coiffeuse n'avait rien à lui apprendre sur les méandres secrets du cerveau de ce psy. Rien ne pressait, elle lui téléphonerait plus tard. Marianne Ogresse mit un pied sur la première marche de l'escalier, puis s'adressa à l'agent Benami. « Dis à JB de me rejoindre dans la chambre du gosse. Si elle est trop lourde, tu l'aides à monter la caisse. On va s'installer là-haut, pendant que vous jouez avec vos cotons-tiges et vos éprouvettes. » JB avait étalé sur le lit quelques dessins de Malone, une quinzaine de feuilles A4 que Vasil Dragonman avait archivées dans son dossier. La chambre ne devait pas excéder 15 mètres carrés et était légèrement mansardée sur le mur qui faisait face à l'escalier. Marianne fut obligée de se pencher pour allumer le petit lecteur de CD posé sur la bibliothèque, avant d'y brancher le lecteur MP3. La voix enregistrée rompit le silence dans la chambre d'enfant. Une voix douce, calme, dont il était presque difficile de distinguer si elle était féminine ou masculine. À travers une écoute distraite, elle pouvait même passer pour celle d'un jeune enfant, comparable à celle des personnages de dessins animés, cohérente sans doute avec la voix qu'aurait une peluche si elle avait pu parler, dans l'esprit de Malone au moins. Car après une écoute plus approfondie, il n'y avait presque plus aucun doute, il s'agissait d'une voix féminine, dont les aigus étaient parfois un peu trop accentués et certaines intonations un peu trop métalliques. Marianne était persuadée que la voix avait été maquillée, certainement trafiquée sur un ordinateur avec un logiciel basique de traitement de son. Ça aussi, ce serait facile à vérifier.
Goutti avait tout juste 3 ans, ce qui était déjà grand dans sa famille, car sa mère n'en avait que 8 et son grand-père, qui était très vieux, en avait 15.
Quel était l'intérêt de déformer la voix de Goutti ?
Ils habitaient dans le plus gros arbre de la plage. Ses racines avaient la forme d'une immense araignée. Au 3e étage, la première branche de gauche, entre une sterne presque tout le temps partie en voyage et un vieux hibou boiteux en retraite qui avait servi sur les bateaux de pirates.
La réponse apparaissait évidente. La voix était modifiée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Pour que si Goutti et son cœur tombaient entre les mains d'un inconnu, ou si Malone parlait trop ou n'était pas assez prudent avec ses écouteurs sous sa couette, on ne puisse pas remonter jusqu'à la conteuse. Sa vraie maman ? La copine de Timo Soler ? La réponse n'était qu'à moitié satisfaisante. Comment identifier quelqu'un en ne possédant que sa voix comme indice ? Parce que la police la connaissait ? C'était l'explication la plus cohérente, même si elle ne semblait pas non plus pleinement convaincante. Si la fille possédait un casier judiciaire, avait connu Soler parce qu'elle appartenait au même milieu du petit banditisme, il ne serait pas bien difficile de repérer son identité, que sa voix soit camouflée ou non. Marianne écoutait à peine l'histoire qu'elle avait déjà passée en boucle la veille, mais JB, au contraire, avait l'air concentré sur le récit de cette voix de robot sortie d'un manga. Faute de place sur le lit, il avait étalé la carte au 1/25 000e sur le petit bureau. Il connaissait les règles. Marianne lui avait annoncé la nature du jeu. Une chasse au trésor. Reprendre la partie là où l'avait laissé Vasil Dragonman. Même carte, mêmes indices, avec un gros avantage sur le psychologue scolaire. Il devait privilégier les zones à proximité du cap de la Hève, puisque c'est là que Dragonman avait été assassiné. Parce qu'il touchait au but. La commandante s'attarda quelques secondes sur la chambre de Malone. Les jouets s'y entassaient, presque trop nombreux pour une famille aussi modeste que les Moulins. Mais Marianne savait qu'il aurait été stupide d'y voir un signe anormal. Malone était un enfant unique. Tout ce qui transpirait de cette pièce, c'était l'amour de ses parents. De sa mère, au moins, pour ce gosse. La commandante observa plus en détail, au-dessus de la table de chevet, le calendrier fluorescent et la fusée posée sur l'une des 7 planètes, celle d'aujourd'hui, vendredi. C'est donc ainsi que le petit Malone se rappelait les jours, se repérait sans se tromper dans la semaine, alors que les gosses de son âge étaient parfois encore incapables de distinguer les soirs des matins. Tout avait été calculé, minutieusement planifié. Malone avait été manipulé depuis près d'un an par ses parents adoptifs, Amanda et Dimitri, ou à l'inverse, par cette femme, à l'insu des Moulins, pour qu'il conserve une trace de sa vie antérieure, malgré les efforts de sa famille d'accueil. La commandante se posa enfin sur le petit lit, écarta les dessins et s'appuya contre l'oreiller Buzz l'éclair, jumeau d'un autre à l'effigie de Woody. Elle entendait en bas les pas lourds des collègues de la police scientifique et n'avait aucune envie de descendre. Marianne se sentait bien, apaisée, dans cette pièce pastel qui ressemblait à un asile inviolable. JB la frôla pour attraper de gros aimants multicolores et accrocher quelques autres dessins sur le radiateur jaune paille. Depuis quelques minutes qu'elle partageait avec lui l'intimité de cette chambre, elle avait remarqué à quel point son adjoint semblait à l'aise. Dans cet environnement inconnu, il disposait de repères presque instinctifs. On devinait qu'il savait d'un geste naturel remonter les draps d'un lit et repérer le jouet caché dessous qui le bosselait. Ranger une peluche comme d'autres hommes ramassent un morceau de papier sur le tapis de sol de leur voiture. Retrouver une histoire rien qu'au dos dans une bibliothèque de 100 albums. Marcher sur la moquette sans écraser aucun des Playmobil ou des petites voitures dispersées, le geste sûr, rassurant, élégant. Un Chip 'n Dale dans un magasin Toys R Us. Total séduction, le top du top. Les mecs bodybuildés de son club de fitness pouvaient suer une vie sans lui arriver à la cheville. Elle imaginait son ombre de géant quand il passait devant la veilleuse du chevet pour embrasser sa petite fille. Elle ressentait, comme un fantasme, ce que devaient ressentir des parents qui vont cacher le cadeau de la petite souris sous l'oreiller de leur gamin, raconter une histoire à deux voix, faire un câlin à trois, à dix en comptant les pluches et les doudous. Cette complicité quotidienne qui donne une raison de rester ensemble, même à des couples qui se détestent, qui font encore supporter l'autre, celui pour qui l'on n'a pourtant plus que du mépris. Ce genre de seconde d'éternité qu'aucun orgasme dans un couple ne remplace. Un instant, Marianne pensa à la chambre de son appartement, celle à côté de la sienne, vide, en bordel, peuplée de cartons jamais déballés, de sa guitare poussiéreuse, de sa collection de poupées péruviennes décolorées et d'un Tankerville où elle étendait des sous-vêtements qui n'excitaient personne. Un instant, elle l'imagina peuplée d'un mobile arc-en-ciel, d'un papier peint de chat rose, de rideaux girafes, d'une moquette clown. Putain, se concentrer. Face à elle, sur le mur, était peint un carré d'ardoise sur lequel on pouvait dessiner, effacer, recommencer. La boîte de craie était posée à côté. Marianne, pour penser à autre chose qu'au vide qui lui tiraillait le ventre, attrapa un morceau de craie blanche, puis écrivit. Qui est la copine de Timo Soler? Est-elle la mère de Malone? Pourquoi dissimule-t-elle sa voix? Pourquoi a-t-elle confié son enfant à Amanda et Dimitri Moulin? Pourquoi a-t-elle confié à une peluche la mémoire que son fils allait perdre? De quoi devait-il se souvenir? Était-il programmé pour un but précis, à un moment précis? La réponse est-elle codée dans les histoires de Goutti? La craie blanche se cassa au 9e point d'interrogation. Elle en prit une autre. Qui est Goutti? Pourquoi la pluche de Malone est-elle un agouti, un rongeur amnésique? Elle changea de craie, en saisit une rose, alterna lettres attachées et caractères bâton. Qui a tué Vasil Dragonman? Qui a tué Dimitri Moulin? Qui sera la prochaine victime? Qui est le tueur? Qui sont les tueurs? Où est Amanda Moulin? Où est Malone Moulin? Où est Timo Soler? Où est Alexis Zerda? Où est le butin du braquage de Deauville? D'un geste nerveux, elle utilisa ce qui lui restait du bout de craie pour tracer un arc de cercle entourant l'ensemble des mots, puis écrivit en diagonale. Quel est le lien entre toutes ces questions? JB la regarda. Rien que ça! Rien que 20 questions! Marianne rangea la craie, calmement, puis observa sa montre. « Et une petite dernière en prime. Pourquoi papy ne rappelle-t-il pas ?»